Bienvenue aujourd'hui dans Union et Désunion, l'émission qui parle d'Europe, présentée par Ulysse Gounel et Nathan Dardefeint-Rosweg. Aujourd'hui, nous allons rencontrer Alain Terrenoir, ancien président de l'Union Pan-Européenne Internationale.
Donc, bonjour Monsieur Terrenoir, merci de nous accorder cette interview. Pour vous présenter rapidement, vous avez été donc président de Pan-Europe Internationale pendant 20 ans. Vous avez été aussi président de Pan-Europe jeune, vous avez été député européen et vous avez aussi été le plus jeune député de l'Assemblée nationale en 1967. Et donc peut-être pour commencer par cette époque, qu'est-ce que ça faisait pour vous? Comment ressentiez-vous le fait d'être le plus jeune député dans cette majorité gaulliste et en plus à un an des mouvements de mai 68?
Je le souhaitais. Depuis ma plus tendre enfance, ayant eu le privilège de vivre auprès d'un héros de la Résistance, un des plus proches du général de Gaulle, conscient de l'enjeu politique pour mon pays, j'avais effectivement l'ambition de n'être pas qu'un spectateur, mais de devenir, dès que possible, un acteur. Et les circonstances me l'ont permis. Puisque j'ai été candidat aux élections difficiles de 1967, élections législatives à l'Assemblée nationale française, dans la circonscription de Roanne, dans le département de la Loire. Peu croyaient, en dehors de moi, que j'avais une chance d'être élu. Je m'attaquais à forte partie dans une circonscription qui n'avait pas été spécialement orienté vers le gaullisme et même vers ma sensibilité politique depuis l'origine. Le combat a réussi, j'ai apparemment convaincu, j'ai eu des difficultés au deuxième tour puisqu'il y avait une triangulaire et ça m'a permis d'être le Benjamin de l'Assemblée nationale à 25 ans à l'époque. Et à cette époque, on ne pouvait pas être député avant l'âge de 23 ans. Les choses ont heureusement changé, puisque je fus moi-même plus tard le rapporteur de l'abaissement de la majorité électorale à 18 ans. Voilà pour ce qu'il en est de ma petite histoire, mais ça remonte à loin maintenant, puisque je parle de 1967 et nous sommes en 2025.
Et pour parler plus de Pan-Europe, nous avons déjà évoqué l'association dans une précédente émission, donc on va peut-être pas représenter toute l'association, mais qu'est-ce que ce mouvement signifie pour vous qui en avez été le président et comment l'avez-vous au fond découvert aussi?
Revenant sur ce que je viens de dire, j'ai été depuis toujours sensible à la question européenne qui pour moi s'imposait. La France avait participé à la victoire, mais elle était terriblement affaiblie, comme l'ensemble de ses voisins qui avaient contribué à ce suicide européen pour la deuxième fois dans le même siècle. Et donc il fallait impérativement que cette France se redresse, qu'elle devienne plus forte. Et il m'est apparu, mais comme à mes parents, comme à mon entourage familial, que seule la dimension européenne permettait d'être au niveau qu'il fallait dans ce XXe siècle. Et j'ai considéré que mon combat prioritaire, je dirais même mon engagement de vie, c'était de participer, de contribuer à la construction d'une grande Europe, d'une Europe unie. Donc, naturellement, j'ai... dès que ma conscience politique s'est suffisamment éveillée, adhérer au mouvement pan-européen. Je fus le fondateur de l'Union pan-européenne de France pour les jeunes dès 1961. J'avais donc à l'époque 20 ans. Ce comité a existé réellement dans quelques réalisations significatives dont la presse de l'époque a fait état. Et notre première manifestation a été l'organisation à Paris d'une rencontre des jeunes syndicalistes français et allemands. Voilà. Et puis, rapidement, J'ai eu la chance de rentrer comme secrétaire général adjoint d'un groupe politique au Parlement européen. Je n'y suis pas resté très longtemps puisque dès mars 1967, j'étais élu à l'Assemblée nationale.
Et donc vous avez rejoint le mouvement pan-européen. Pourquoi ce mouvement et pas d'autres mouvements européens qui existaient à l'époque ?
La ligne de l'Union pan-européenne m'est apparue comme à ma famille, comme à mon père, qui fut lui-même le créateur de l'Union pan-européenne de France à la demande de De Gaulle et de Coudenhove-Kalergi, m'est apparue comme la ligne la plus réaliste, la plus constructive et, j'irais même, la plus juste. Parce que elle considérait que la dimension européenne était une nécessité pour l'ensemble des pays européens, mais qu'en plus, elle devait s'appuyer sur la prise en compte des réalités nationales. Qu'il ne pouvait être question, à ce moment du XXe siècle, d'oublier que dans la réalité vécue, dans la réalité économique aussi de l'époque, dans la réalité politique, l'existence nationale était incontournable. Et donc c'était en s'appuyant, en se fondant sur les réalités nationales ressenties par les Européens dans leur diversité nationale, qu'il fallait créer l'Europe. Donc ce mouvement pan-européen était celui, à l'inspiration de Coudenhove-Kalergi, qui lui faisait le plus référence. C'était donc une réalité vécue du sentiment national. Bon. Le contourner me paraissait illusoire. Deuxièmement, l'Europe n'avait de sens, d'intérêt, de vraie perspective que si elle s'affirmait comme une entité par elle-même, globale, construisant dans tous les domaines son propre avenir. Et donc, devait s'affirmer indépendante. Dans les années 50, 60, l'imprégnation américaine était encore considérable. Et pour une part, justifiée, puisqu'il y avait de l'autre côté du rideau de fer qui coupait l'Europe en deux, l'impérialisme soviétique qui restait menaçant pour les pays d'Europe occidentale, à commencer par la part de l'Allemagne qui n'était pas sous sa domination. Donc, dans cette situation-là, on pouvait comprendre que l'Europe en construction ait encore besoin d'un soutien extérieur. Mais il était évident pour moi que l'Europe n'avait de sens que si elle était capable de se construire par elle-même, pour elle-même, globalement, sans être dépendante de façon définitive d'un tiers.
Et vous avez mentionné juste avant Charles de Gaulle, donc, qui a demandé la création du Comité français de l'Union pan-européenne. Sa mémoire est souvent invoquée par tous les bords politiques aujourd'hui, mais spécifiquement par les souverainistes qui disent que de Gaulle, s'il vivait aujourd'hui, voterait contre l'Europe telle qu'elle existe. Alors, dans quelle mesure de Gaulle était-il réellement pro-européen ?
De Gaulle était fondamentalement ce qu'on appelle un réaliste visionnaire. Depuis les années 20 et 30, il avait bien pris en compte la nouvelle réalité de l'Europe qui avait dominé le monde dans les siècles précédents, qui avait ses propres empires investis sur l'ensemble de la planète. Telle n'était plus la situation après la Première Guerre mondiale et telle n'était plus du tout la situation après encore plus gravement encore la Deuxième Guerre mondiale. Par conséquent, le visionnaire qu'il était devait se projeter sur une dimension qui corresponde à l'ambition qu'il avait pour son propre pays, la France. Donc son souverainisme français s'intégrait dans un souverainisme plus large qu'il voulait construire, auquel il aspirait, la souveraineté européenne. La souveraineté européenne, pour De Gaulle, n'éliminait pas la souveraineté nationale. Elle était complémentaire, elle s'additionnait à la souveraineté nationale pour que l'Europe se constitue non pas en faisant disparaître ses réalités nationales, mais en les additionnant pour en constituer une puissance à l'échelle du nouveau monde qui s'était constitué après la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, telle était l'idée de De Gaulle. De Gaulle, il faut toujours considérer que ce n'est pas un doctrinaire, qu'il n'est pas bloqué sur quelque idée que ce soit, mais il a effectivement un sentiment national et il se met en perspective. C'est pourquoi, en 1940, il s'était mis en perspective d'une victoire quand peu de gens en France l'imaginaient. Et il a tout construit, sa vie politique, son engagement, dans cette vision, dans cette perspective. Il en fut ainsi pour la question européenne. Dès les années 40, quand la guerre n'était pas encore terminée, De Gaulle avait parlé de la constitution d'une Europe organisée, d'une Europe qui deviendrait une réalité dans une entente franco-allemande qu'il considérait comme incontournable, indispensable. Il avait ressenti cette nécessité dès la période où il avait été en prison pendant la Première Guerre mondiale. Il était germanophone, il comprenait la mentalité allemande et il avait bien entendu compris qu'il fallait que la France et l'Allemagne se réconcilient et constituent ensemble un élément fondamental de cette Europe à laquelle il aspirait.
Et donc, si on peut résumer votre ligne politique et l'attachement à une personne, en plus de De Gaulle, ça serait Chaban-Delmas?
Alors oui, quand Chaban-Delmas était Premier ministre, je lui ai apporté mon soutien et je l'ai soutenu quand il a été candidat à la présidence de la République. Absolument, il avait une vision aussi sociale de ce que devait être la France et ça n'était pas à l'époque en totale conformité avec d'autres personnes de sa propre formation politique. Mais c'était un combat intéressant auquel j'étais associé.
Et donc, pour le comparer avec d'autres personnes de sa formation politique, justement, dans quelle mesure votre ligne s'éloigne de celle, par exemple, que Philippe Séguin a portée en 92 en s'opposant au traité de Maastricht?
Il m'est toujours apparu que Philippe Séguin n'avait pas admis, je ne vais pas dire compris, la nécessité de l'Europe. Qu'il considérait son patriotisme que j'appréciais comme une fin en soi. Mais le patriotisme, s'il suscite la conflictualité avec des voisins, il devient négatif. Il faut au contraire, j'en reviens à l'idée de souveraineté européenne, associer son patriotisme à celui de ses voisins, en l'occurrence pour les Français, à celui des Européens, pour constituer une force à la mesure du monde d'aujourd'hui. C'est simple. Regardez la Chine, dictature. Regardez la Russie, dictature. Regardez les États-Unis d'aujourd'hui, qui sont pas très loin d'une autocratie, si j'en juge par certains comportements du président Trump. Nous avons besoin, nous, d'être en situation pour y faire face, pour la défense de nos intérêts légitimes, pour ce qui concerne la Russie, de nos frontières, pour ce qui concerne la Chine, de nos intérêts économiques, derrière lesquels se cachent des intérêts politiques majeurs. À l'égard des États-Unis, nous avons vu, depuis que le nouveau président s'est installé, qu'il a pris la main sur les échanges commerciaux à notre détriment et que nous n'avons pas été en mesure de défendre comme il convenait nos intérêts essentiels. Je parle des intérêts économiques, par le jeu des tarifs douaniers en particulier, mais pas uniquement. Nous sommes envahis par ailleurs, à la fois par les États-Unis et par la Chine, dans le domaine des technologies en évolution rapide, extrêmement rapide. L'Europe est une des zones du monde où il y a le plus de créativité, où il y a des cerveaux aussi développés que nulle part ailleurs. Pourquoi ne sommes-nous pas, nous aussi, à la pointe de ces technologies qui sont devenues indispensables, non seulement pour l'économie, mais pour la vie, tout simple, même la vie de tous les jours. Donc, les Européens ont un intérêt évident à s'entendre et à mettre ensemble leurs capacités de recherche, de production, plutôt que de subir celle qui leur vient de l'extérieur. Ça me paraît tellement évident.
Pour continuer aussi sur ces difficultés qu'a l'Europe à s'unir, et en parlant toujours d'illusions, récemment, depuis plusieurs mois, il y a une sorte de nouvelle idée qui commence à apparaître, notamment portée par des figures comme Elon Musk ou Viktor Orban, qui est le « Make Europe Great Again ». Est-ce que vous pensez que ce phénomène se traduit par une sorte d'alliance entre les mouvements populistes européens? Et est-ce que vous pensez que cette dynamique pose une menace interne pour la stabilité, la valeur et l'avenir européenne?
Pour tout vous dire, je ne vois pas comment le « Make Hungary Great Again » puisse avoir un sens pour les Français. La Hongrie est une vieille civilisation européenne qui a largement contribué dans son histoire à donner des valeurs, à contribuer aux valeurs européennes telles que on les connaît. La Hongrie, en fait, d'aujourd'hui est sous la coupe de quelqu'un qui était au départ un vrai démocrate européen, hongrois et européen, et qui est devenu un autocrate à la merci de sa relation, qui n'est peut-être pas totalement désintéressée, avec le maître de Moscou, un certain Vladimir Poutine. Voilà.
Et vous avez parlé...
Quant à M. Musk, c'est l'argent, d'abord, et au bout du compte. Alors qu'il est un don, plusieurs même, c'est évident. Mais ce Sud-Africain d'origine devenu américain a contribué au succès de Trump pour, quelques semaines après, s'en éloigner. Je n'ai jamais considéré que les grands hommes d'affaires étaient des visionnaires politiques.
Mais est-ce que vous pensez qu'on puisse voir apparaître un lien entre ces grandes fortunes, donc cette richesse, et les forces politiques donc populistes, nationalistes? Je pense notamment à Sterrin ou Bolloré en France, Elon Musk aux États-Unis, bien sûr. Est-ce que vous pensez qu'il y a un lien qui est en train de se créer?
Il est possible qu'il se crée, mais je ne vois pas sous quelle forme et pour quelle raison. À l'évidence, le Rassemblement national qui est favorisé par les médias de M. Bolloré a une orientation principalement nationaliste, c'est-à-dire une fermeture sur le pays français en voulant se méfier, s'opposer même de tout ce qui est extérieur à la France. Je ne vois pas très bien le lien qu'il y a avec M. Musk, qui est un impérialiste capitaliste, ou même avec M. Orban, qui ne jure que par la Hongrie liée et dépendante à la Russie. Je ne vois pas. Pour moi, il y a beaucoup de contradictions dans tout ça. Pour moi, l'intérêt de la France, c'est d'agir avec ses voisins européens, parce que c'est avec ses voisins européens qu'elle se donne les moyens de défendre ses propres intérêts, et non pas en s'alliant avec des étrangers qui sont eux-mêmes des nationalistes. Tout cela s'appuie sur beaucoup de démagogie, de facilité électoraliste pour conquérir des électeurs dans une situation de déception et même souvent de colère à l'égard des difficultés qu'ils vivent et dont ils subissent dans leur propre pays. L'exploitation de ces difficultés, de ces colères, ne mènera à rien de positif, de constructif. D'ailleurs, dès que ces nationalistes sont au pouvoir, on l'a vu en Italie récemment, ils sont bien obligés de prendre en compte les réalités extérieures et pour ce qui concerne les Européens, les réalités européennes. Si Madame Meloni, présidente du Conseil italien, n'avait pas bénéficié des milliards de l'Union européenne pour redresser l'économie de son pays, elle ne serait pas dans son autosuffisance actuelle et ses moqueries à l'égard des difficultés actuelles de la France.
Vous avez parlé donc de la colère des citoyens, de cette exploitation-là. Aujourd'hui, il y a un grand mal auprès des forces traditionnelles, souvent aussi les forces pro-européennes, à apporter une réponse face à la résurgence du nationalisme. Est-ce que vous, avec votre expérience politique, vous avez une idée de réponse qu'on pourrait apporter aux citoyens français ou européens qui votent pour ces partis populistes ?
Il est clair que la plupart de ceux qui votent pour ces partis populistes n'ont pas conscience que, à travers le nationalisme auquel ils se rattachent, il y a du conflictuel à la clé. C'est pas moi qui l'ai dit le premier, c'est un ancien président de la République qui avait pour l'occasion une vision juste. Le nationalisme, c'est la guerre, il l'avait dit à une session du Parlement européen. Toute l'histoire de l'humanité, le monde, le prouve encore aujourd'hui. Le nationalisme, c'est la guerre. Donc il faut, si l'on veut éviter la guerre, éviter de s'enfermer dans un nationalisme trop étroit qui vous pousse automatiquement, c'est l'histoire, au conflit avec d'autres. C'est une histoire qui s'impose. Je constate qu'aujourd'hui, en 2025, nous avons des phénomènes qui ressemblent beaucoup, comparaison n'est pas raison, mais qui ressemblent beaucoup aux phénomènes des années 30. Un retour du nationalisme, bon, ça a été le cas avec le fascisme en Italie, ça a été le cas avec le franquisme en Espagne, ça a été le cas au Portugal avec le salazarisme, ça a été le cas évidemment en Allemagne avec le nazisme. Est-ce que c'est ça que nous voulons? Alors, à l'époque, ce nationalisme, notamment en Allemagne, s'est opposé ou s'est constitué dans l'antisémitisme, avec ce que l'on sait qui a suivi. Et aujourd'hui, bon, c'est contre les Arabes. Ce qui ne veut pas dire que l'Europe doit être ouverte à toutes les influences, à toutes les migrations, surtout pas. Elle doit contrôler, en fonction de ses besoins économiques, elle doit contrôler l'immigration. Mais ne pas considérer que l'émigré, en général, est un adversaire qu'il faut combattre de tous les moyens. Le Rassemblement national, il est passé de l'antisémitisme l'anti-islam systématique. Bon, la France a des musulmans, il faut bien que dans notre démocratie laïque, nous vivions dans le respect des sentiments religieux, tout en se méfiant des dangers, et c'est le cas en ce moment en particulier, qui peuvent par moment, dans certains cas, et auprès de certaines populations, susciter.
Et pour revenir donc à cette sentiment, dans les années 30, nous avons vu un alignement entre les pays, on va dire, qui s'autocratisaient, les pays qui adoptaient le fascisme. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'il y a un alignement qui se fait, notamment entre la Chine, la Russie, les États-Unis et les autres pays autocrates qui émergent en Afrique ou en Europe ?
Ah, il y a à l'évidence des relations d'équilibre. Et nous l'avons vu dans le comportement de Trump, qui voulait imposer des droits de douane très répressifs à la Chine et qui a largement composé parce que l'Amérique pour elle-même était par ailleurs dépendante pour un certain nombre de produits nécessaires, indispensables de la Chine. Il en est de même avec la Russie. On voit bien que l'Amérique de Trump, quoi qu'il dise par moment, son discours est souvent contradictoire. Il y a une composition et même un compromis. Et c'est là où on voit que l'Amérique de Trump ne considère plus l'Europe libre, l'Europe démocratique, comme un espace dont elle aurait la charge de la sécurité, de la protection. Si les Européens l'avaient compris plus tôt, par rapport à ce qui se passe en Ukraine, il est probable que nous n'en serions pas au même niveau.
Et donc peut-être une dernière question pour clore cette interview. Est-ce que actuellement, si l'Europe n'existait pas,
vous pensez que celle-ci se ferait un peu divisée? Donc que la Grèce irait à la Chine, que l'Est irait à la Russie, que l'Ouest irait aux États-Unis? Ou pensez-vous que les pays, chacun dans leur petite indépendance, pourraient tenir une forme de souveraineté?
Ça me paraît impossible d'imaginer que la dispersion géopolitique nationale des pays européens puisse donner quelque chose d'utile aux Européens, où qu'ils se trouvent. Je vois plutôt un envahissement s'affirmer progressivement si nous ne sommes pas rapidement maintenant capables d'affirmer notre propre protection dans tous les domaines. L'Union fait la force. L'Union des Européens est indispensable dans le monde d'aujourd'hui, sinon ce sera l'effacement progressif de ce qui nous reste de la vieille culture et de la vieille civilisation européenne qui a imprégné le monde. L'Europe, aujourd'hui, est à croiser les chemins. Elle s'est constituée de façon insuffisamment solide, mais elle existe. L'Union européenne existe. Il y a des résultats positifs. Nous avons, nous partageons pour l'essentiel les valeurs de l'état de droit, les valeurs de la liberté, de la pratique démocratique. Nous avons une vision globalement pacifique en interne. Donc nous pouvons, par nous-mêmes, par notre capacité à nous entendre, tenir une ligne et assurer en interne à l'Union européenne le développement dont la civilisation actuelle a besoin. C'est une question de volonté politique. Si les Européens et leurs dirigeants n'en ont pas une juste conscience et ne font pas les efforts qu'il faut, qu'ils peuvent être considérables, pour y parvenir, alors il est à craindre que cette vieille histoire de l'Europe ne s'efface progressivement. Face à l'impérialisme chinois, face à l'impérialisme russe, face à la résurgence d'une, à la fois d'un individualisme américain et d'une volonté d'affirmer sa puissance à travers ses moyens financiers et économiques, alors il est à craindre effectivement que l'Europe rentre dans l'histoire, mais non pas dans l'avenir.
Voilà pour cette 4e émission d'Europe, Union et Désunion. Nous espérons que l'écoute aura été agréable et que l'Union européenne ainsi racontée devient tout à coup plus intéressante. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission et, dans l'intervalle, n'hésitez pas à partager celle-ci sur les réseaux sociaux ou à vos proches et surtout, soyez européens.